Je vous invite à lire avec moi le passage qui sera la base de notre méditation de ce matin. Il se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 13. Et nous lirons à partir du verset 24. Jésus leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi paraître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander : « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit : « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alors les serviteurs demandèrent : « Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe ?»« Non, répondit le maître, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur : enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en bottes pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. » Nous reprenons la lecture au verset 36. Après que Jésus ait encore apporté quelques autres éléments de parabole. Alors Jésus laissa la foule et rentra dans la maison. Ses disciples vinrent auprès de lui et lui demandèrent : « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Il leur répondit : « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont ceux qui font partie du royaume. La mauvaise herbe, ce sont ceux qui suivent le diable. L'ennemi qui a semé la mauvaise graine, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils y élimineront de son royaume tous ceux qui incitent les autres à pécher et ceux qui font le mal. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume du Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Dimanche dernier, en approchant de l'entrée de l'église, nous repérons une plante au pied du cyprès. On dirait un plant de tomate, dit l'une. On dirait plutôt un plant d'aubergine, dit l'autre. Le troisième ne dit rien, car il n'avait pas la moindre idée de la nature de la plante. La nature, dans sa grande diversité, multiplie à profusion les feuillages. Sauf pour les experts, il n'est pas facile de reconnaître une plante, un végétal, parfois même certains arbres à leur seul feuillage. Essayez de distinguer entre les feuilles de l'orme et les feuilles du charme. Certains champignons vénéneux ressemblent beaucoup à d'autres qui sont comestibles. J'ai entendu l'autre jour aux informations qu'une équipe de gendarmes avait arraché tout un champ de chanvre en pensant que c'était un champ de cannabis. C'est vrai que le cannabis, c'est le nom général du chanvre. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs variétés de chanvre. Le chanvre indien, c'est celui, effectivement, qui, à partir duquel on fabrique le hashish, la marijuana et les drogues. Mais il y a un chanvre qui sert à, dont les tiges servent à faire des tissus, vous le savez. La parabole de Jésus sur le champ où croissent ensemble le blé et l'ivraie, la mauvaise herbe, parle de cette réalité mêlée. Pourquoi et comment le blé et la mauvaise herbe poussent-ils ensemble dans le même champ? Et comment est-il difficile de les distinguer? Que faire face à cette réalité? Quelles leçons tirer de cet enseignement? Quelques mots donc sur la parabole et son explication. Le royaume des cieux, dit Jésus, est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Ainsi commence l'histoire. Et cette parabole fait suite dans la présentation de Matthieu à cette longue et belle grande parabole du semeur, une des plus développées dans l'enseignement de Jésus, sinon la plus développée. Il est toujours question au départ donc de semences, de champs et de paroles. Et on peut difficilement éviter de se reporter au commencement. Et là, je rejoins un peu le fil de Timothée ce matin, encore une fois, il y a des convergences, car on ne peut pas ne pas penser, lorsqu'on entend parler de ce semeur qui a semé la parole, une bonne semence dans son champ, on ne peut pas ne pas penser à cette parole divine, initiale, par qui le monde a été créé. Et cette bonne semence mise sur la terre par cette parole créatrice, et cette parole qui, après avoir créé, a donné à l'homme la gestion de cette création. Oui, au commencement, Dieu a semé une parole de vie, dans le champ qu'est le monde. Et puis, l'ennemi est venu dans ce champ. L'ennemi qui est venu semer la parole du doute. Dieu a-t-il réellement dit? La mauvaise herbe, la mauvaise semence, le mensonge et désormais le mélange. Dieu a-t-il réellement dit? Le doute. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Dans la nuit, son ennemi est venu semer de l'ivraie, la mauvaise herbe. L'ivraie ressemble au blé, surtout au début de sa croissance. Mais au lieu de donner la graine pour faire le pain, elle donne le fruit qui produit l'ivresse. Dans le langage ancien, en effet, en grec, l'ivraie était appelée la zizanie, d'où semait la zizanie. L'ivresse et la zizanie, deux caractéristiques de notre monde, point d'interrogation. L'ivresse et la zizanie. Quand le blé a poussé et commencé à produire ses épis, l'ivraie à son tour produit ses fruits. Les serviteurs du maître de la maison, voyant cela, viennent lui dire leur étonnement. « N'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient qu'il y a de l'ivraie ?» C'est un ennemi qui a fait cela. il y a, dès le commencement du monde, un ennemi qui vient pour contrecarrer les desseins de Dieu, sa bonne action et sa bonne parole. Il a semé le mal au milieu du bien, dit le maître de la maison. C'est mon ennemi qui a fait cela, et il l'a fait pour me nuire. Alors veux-tu que nous allions arracher l'ivraie, disent les serviteurs à leur maître. Non, répond-il. Et pourquoi? Parce que les deux plantes se ressemblent? Oui, en partie. Mais au fil du développement se fait un peu plus la distinction. La preuve, c'est que l'œil avisé des serviteurs a quand même reconnu l'ivraie au milieu des plants de blé. Mais c'est surtout cette interdiction d'aller arracher prématurément l'ivraie au milieu du blé, c'est surtout que les racines sont inextricablement mêlées. Les racines du blé et les racines de l'ivraie sont inextricablement mêlées. En arrachant une plante, on peut difficilement ne pas arracher l'autre. Alors, dit le maître, laissez-les croître ensemble jusqu'à la moisson. Et c'est le temps du monde. C'est le temps de la croissance. C'est le temps du développement. C'est à la moisson seulement, réalisée par les anges, qu'interviendra la séparation, que l'ivraie sera préalablement arrachée et jetée au feu. En attendant la fin du monde, le champ qu'est le monde est le lieu où sont mélangés le blé et la mauvaise herbe. Telle est la situation du monde aujourd'hui, comme au temps de Jésus. Une humanité où se mêlent bons et méchants, fils de la lumière et fils des ténèbres, paroles de vie et paroles de mort, vraies et fausses promesses, chants d'espérance et chants de sirène, mélopée d'ivresse. Le temps du mélange et de la confusion. Je voudrais juste prendre quelques exemples pour illustrer cet état de fait du monde. Et je commencerai par un fait de l'Ancien Testament, une histoire que je résume très brièvement. Sous le règne de Saül, Israël est en guerre avec les Philistins. À un moment donné, le fils de Saül, Jonathan, avec son serviteur, décide d'aller attaquer un poste avancé des Philistins. Et en faisant confiance à Dieu, il mène cette attaque avec son serviteur, les deux hommes seuls, et il remporte la victoire sur le poste des Philistins. Et pendant qu'ils étaient sur cette action, le roi Saül a fait jurer à son peuple « Maudit soit l'homme qui prendra la moindre nourriture avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Voilà comment le roi Saül a fait promettre à son peuple une folie. En plus, en argumentant sur le fait qu'il se soit vengé, lui, de ses ennemis. Jonathan, qui ne savait pas ce que le peuple avait promis et juré à la demande de Saül, est arrivé dans une forêt où il y avait des rayons de miel qui s'étaient répandus sur le sol. Il en a pris avec son bâton, il en a mangé, et ses forces lui sont revenues. Et à ce moment-là, quelqu'un du peuple lui a dit « Tu sais que ton père a fait jurer au peuple de ne rien manger jusqu'à ce qu'il ait tiré vengeance de ses ennemis. » Alors Jonathan a dit « Mon père trouble le peuple » ou « Mon père fait le malheur de son peuple ». Et c'est à partir de cette expression que je voudrais prendre quelques exemples de ces confusions et de ces mélanges. Ici, c'est cette folie de Saül qui a failli coûter la vie à Jonathan. Heureusement que les chefs du peuple ont été les défenseurs de Jonathan et ils ont dit à Saül, jamais de la vie, Jonathan ne mourra parce qu'il a transgressé l'ordre que tu as donné. C'est par lui que la délivrance est venue aujourd'hui et par l'Éternel, donc il ne mourra pas. Et Jonathan a été épargné. Mais l'expression que je retiens et que je vais reprendre dans d'autres endroits de l'Écriture, c'est cette expression « Mon père, le roi, trouble le peuple ». Le peuple est troublé par quelque chose qui vient en contradiction avec ce que Dieu lui avait enseigné. Pour aller dans le Nouveau Testament, dans la lettre de Paul aux Galates, nous retrouvons cette expression. Et l'apôtre Paul dit rapidement aux chrétiens de Galatie, « Je m'étonne, après avoir adhéré à l'Évangile, que vous vous détourniez de ce que vous avez reçu et commenciez à vivre et à pratiquer pour passer à un autre Évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, il n'y a pas d'autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Et ce qui m'a frappé en reprenant cette expression, c'est qu'elle revient à plusieurs reprises tout au long de la lettre aux Galates. Ces gens qui vous troublent, ces gens qui veulent vous séduire, qui interprètent l'évangile d'une mauvaise manière et qui veulent vous entraîner, ce sont des judaïsants dont l'influence pernicieuse risque d'égarer les chrétiens des églises de Galatie. Un mélange entre justification par la foi et justification par les œuvres et égarement donc du peuple. Nombreuses allusions à ces gens qui vous troublent dans la lettre aux Galates. Nous avons d'autres expressions qui ressemblent à celle-là. Et je voudrais évoquer par exemple la notion de déguisement. On trouve dans les proverbes, par ses lèvres, celui qui est se déguise, mais au fond de lui-même, il est rempli de duplicité. Dans 2 Corinthiens au chapitre 11, il est question des faux prophètes, des faux apôtres, des faux ouvriers, malhonnêtes, déguisés en apôtres du Christ, et dont l'apôtre dit « Ce n'est pas étonnant parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Ses agents aussi se déguisent en serviteurs de ce qui est juste. Il est question, dans un texte très important d'Éphésiens 4, de personnes qui risquent d'entraîner les autres par leur habileté en répandant toutes sortes d'entraînements, leur habileté à entraîner les autres dans l'erreur. Et c'est le passage qui dit qu'il ne faut pas être des enfants flottants et comme des barques emportées par les flots, par des gens qui répandent le vent de plusieurs sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Dans la lettre de Tite aussi, il est question de ceux qui refusent de se soumettre à la vérité, ils tournent la tête aux gens par leur discours creux. Et puis finalement, je pourrais allonger la liste, mais c'est surtout les avertissements de Jésus dans Matthieu 24, où il dit que dans les temps de la fin, il faut faire attention à ce que personne ne nous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant « Je suis le Messie » et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de menaces de guerre, attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. De nombreux faux prophètes surgiront et tromperont beaucoup de gens, de faux Christ surgiront ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges, au point de tromper, si c'était possible, même les élus. Voilà, je vous ai prévenu, dit le Seigneur. Le temps du mélange et de la confusion. Le temps des déguisements. Le temps des paroles séductrices, le temps de toutes sortes de séductions. À ce problème général s'ajoute un autre problème qui est tout à fait proche. C'est celui du contraste, pour ne pas dire parfois la contradiction, entre l'apparence et la réalité. Vous avez vu toute cette question du déguisement et même de Satan qui se déguise en ange de lumière. Dans un passage aussi de l'Ancien Testament, lorsque Dieu justement a rejeté Saül et qu'il envoie le prophète Samuel pour oindre celui que Dieu a choisi à la place de Saül pour être roi d'Israël, quand Samuel arrive dans la maison où Dieu l'envoie, il voit un grand jeune homme qui s'appelle Éliab, qui est grand, costaud, et il se dit en lui-même, c'est probablement celui-là, c'est même certainement celui-là que Dieu a choisi pour être le roi d'Israël. Et Dieu lui dit non, ce n'est pas celui-là que j'ai choisi. Je l'ai rejeté. Et nous avons la phrase très importante, la parole de Dieu qui est prononcée à ce moment-là. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Tant du mélange, tant de la confusion, tant où il est difficile de faire la distinction de parole, d'image et de réalité. Comment distinguer? Comment faire la distinction? Comment apprendre à regarder au-delà des apparences? Comment ne pas être séduit? La prochaine étape de ce que je voulais partager avec vous ce matin découle tout naturellement de cette description du temps du mélange et de la confusion. C'est la nécessité du discernement. La nécessité d'être amené à la capacité de distinguer entre le bien et le mal, entre le blé et l'ivraie, entre les paroles de la promesse et les paroles de la séduction. Cette exhortation, elle aussi, s'enracine dans l'Ancien Testament, dans toute l'exhortation à rechercher la sagesse. Exhortation que nous avons comme un fil rouge tout au long de l'enseignement de la parole de Dieu en général et de l'Ancien Testament d'abord. Quelques rappels au début du livre des Proverbes, le livre de la sagesse. Les proverbes ont pour but d'enseigner aux hommes la sagesse et de les former pour qu'ils comprennent les paroles prononcées avec intelligence et qu'ils apprennent à agir de façon réfléchie, juste, droite et correcte. Ces proverbes donneront aux gens sans expérience le discernement et aux jeunes la connaissance et le jugement. En les écoutant, le sage enrichira son savoir-faire et l'homme avisé acquérera l'art de bien se conduire. Car nous avons besoin de recevoir de Dieu la clairvoyance, l'esprit de discernement et la sagesse. Car naturellement, nous ne sommes pas sûrs de ne pas confondre le bien et le mal, l'apparence et la réalité. Bien des hommes pensent être sur le bon chemin, et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui finalement mène à la mort, dit là encore le sage des Proverbes. Et cette autre parole, ceux qui s'adonnent au mal ne comprennent rien à la droiture. Mais ceux qui s'attachent à l'Éternel comprennent tout. Ceux qui s'attachent à l'Éternel comprennent tout. Dans l'enseignement de Jésus, pour revenir à Matthieu, au chapitre précédent, celui de notre parabole, il est question de la parole et des paroles humaines, et des paroles humaines qui peuvent faire du bien ou du mal. et qui peuvent, ce faisant, manifester leur origine au plus profond du cœur humain, le bien ou le mal. Par tes paroles, tu seras justifié, ou par tes paroles, tu seras condamné, parce qu'elles révèlent la réalité de ton cœur. Et Jésus dit, on reconnaît l'arbre à son fruit, pas à ses feuillages, à son fruit. Là, nous retrouvons la notion du temps qui nous est apparue avec force dans cette parabole du bon grain et de l'ivraie, le temps nécessaire à la maturation. Et ensuite, la possibilité de faire une claire distinction entre le bien et le mal, entre le bon grain et l'ivraie, entre le blé et la mauvaise herbe. Je reviens à ce passage dont j'ai cité la deuxième partie dans la lettre aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, au verset 14. Voici un extrait de cette parole de l'apôtre. Jésus-Christ a fait don à l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et enseignants, pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service, en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi, dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. Dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude de ce qui vient du Christ. Ça, c'est le chemin de la sagesse, du discernement et de l'écoute de l'Esprit. De cette manière, nous ne serons plus des petits-enfants, ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. En étant conduits dans la foi et dans la connaissance de Dieu, nous serons entraînés au discernement, ce que l'apôtre appelle ailleurs le discernement des esprits, des vrais prophètes et des faux prophètes, de ceux qui parlent de la part de Dieu et ceux qui, tout en prétendant parler de la part de Dieu, font le contraire de ce que Dieu a dit. Le discernement, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Paul aux Thessaloniciens. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. C'est l'application du discernement. Je cite encore ici l'apôtre Jean. Attention, mes chers amis, dans la première lettre de Jean, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous donne l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union avec Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Et j'aborde la dernière partie de ce que je voulais partager avec vous. Après le temps du mélange et de la confusion, la nécessité du discernement, le temps et la fin. Le temps de la maturation, le temps du développement, le temps pour nous d'acquérir par la parole de Dieu, par l'ouverture à tout ce qu'il nous enseigne, par l'action de son esprit, par l'édification mutuelle, le temps pour devenir des adultes dans le Christ et d'acquérir la sagesse et le discernement pour bien séparer le bon grain de l'ivraie. et de produire des bons fruits, nous aussi. Nous aussi, ayant reçu la parole de vie, étant porteurs de cette parole de vie, au milieu du monde, de la confusion et du mélange, produire de bons fruits pour la gloire de Dieu et pour le bien de ceux qui entendront cette parole. Un dernier mot pour dire quelque chose que ne dit pas notre parabole. Notre parabole va directement à la fin. Elle parle de la fin du monde, du grand jour du jugement et de la séparation qui paraîtra évidente à ce moment-là entre les fils des ténèbres et les fils de la lumière. Mais tant que dure aujourd'hui le temps du mélange, dure encore le temps de la grâce. Et je voudrais lire ici, en guise de conclusion, quelques versets dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 8 et au verset 21. Jésus, dans son débat avec les chefs du peuple, leur dit « Je vais m'en aller et vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas aller où je vais. Vous mourrez dans votre péché. » Ici, Jésus prononce la sentence, celle qui apparaîtra à la fin pour ceux qui seront restés dans le péché. Vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas aller où je vais. Sur quoi ils se demandèrent entre eux, aura-t-il l'intention de se tuer? Et cela, ce qu'il veut dire par ces paroles, vous ne pouvez pas aller où je vais. Alors Jésus reprend. Vous, leur dit-il, alors, vous êtes d'ici-bas. Moi, je suis d'en haut. Vous appartenez à ce monde-ci, moi, je ne lui appartiens pas. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas ce que je suis, ou que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jésus avait dit, vous mourrez dans vos péchés. Et maintenant, il donne le sens du présent. Et il ajoute cette parole si importante. Si vous ne croyez pas, mais puisque vous êtes là et que je vous parle, aujourd'hui, vous pouvez croire. Si vous ne croyez pas, vous mourrez dans vos péchés. Alors, ce que ne dit pas la parabole, c'est que tant qu'on est à l'écoute de cette parole qui nous décrit depuis le commencement de l'humanité jusqu'à la fin des temps, l'histoire des deux lignées, celle qui va vers la mort et celle qui va vers la vie éternelle, tant que dure aujourd'hui le temps de la grâce, on peut, comme dit saint Augustin, changer de nature. Que ceux qui aujourd'hui sont ivrés, demain soient blé. Que ceux qui aujourd'hui sont ivrés, demain soient blé. Comment ? Saint Augustin a bien souligné cette réalité. Et tant que dure ce temps de la grâce, dure la parole qui appelle à changer de vie, à changer de regard, à changer de comportement, à changer complètement de ligne de vie et à acquérir ce discernement qui fait passer de la mort à la vie et qui fait passer des ténèbres à la lumière. Que le Seigneur nous accorde à tous la grâce d'être des fils de la lumière en suivant l'enseignement et la personne adorable de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Parole de vie, pain de vie, dont nous allons évoquer la mémoire en partageant la Sainte Cène. Amen.